Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À l'approche de l'été et de ses promesses de soleil, de baignade, de farniente, voici le roman qui par excellence va vous donner l'eau à la bouche. Une fiction qui se déroule en partie dans une station balnéaire, encore protégée des touristes, mais aussi dans un ballon dirigeable de luxe qui survole la terre, avec un zeste de mystère, une passion amoureuse contrariée, des haines familiales, un musicien énigmatique et des secrets enfouis. Bonjour Stéphane Ehom.
Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint, merci beaucoup.
C'est vous qui signez ce roman, paru sous le titre « Sœur de sable » aux éditions Rivage, qui, je ne l'ai pas encore dit, s'articule en deux temps, avec d'un côté l'histoire de Rose, au début des années 60, dans un endroit imaginaire, Port-Fou, qui pourrait être une île grecque, et de l'autre côté Amalia, de nos jours, qui par hasard va rencontrer un vieil homme qui a connu Rose justement 60 ans auparavant. Et c'est ainsi qu'entre les deux époques et les deux lieux vont finir par se rejoindre ces deux histoires pour n'en former qu'une. C'est un roman qui a beaucoup de charme et qui, même dans l'époque contemporaine, exhale un parfum peut-être nostalgique d'un temps révolu. Et d'ailleurs, l'un de vos personnages dit « Je hais ce monde moderne, je préfère le monde ancien ». Fermez les guillemets. Donc, commençons par ce monde ancien, entre guillemets. Un univers en effet enchanteur, près de la mer, nommé Port-Fou, qui pourrait être aussi Chypre, puisqu'il est question d'une frontière où vit une écrivaine américaine, Rose, qui après avoir hérité d'un hôtel de luxe, hélas à l'abandon, s'est installée là dans l'espoir de rénover le bâtiment et de lui redonner tout son lustre. Que représente Rose pour vous, Stéphane Ehom ?
Alors Rose, c'est un personnage qui existe, que j'ai connu, et qui a tout à fait le profil de ce personnage à l'abandon, un peu comme l'hôtel qu'elle doit retaper. Et finalement, il y a une superposition des âmes, l'âme de Rose, perdue dans sa chute littéraire, perdue parce qu'elle abuse un peu du vin blanc, perdue parce qu'elle n'a jamais été aimée comme il le fallait. Et puis, d'un autre côté, cet hôtel qui est tout à fait décrépit et qui chute aussi presque dans la mer, puisqu'il est sur le promontoire de la crique, d'un des bords de la crique de Port-Fou. Et donc, ce personnage, pour moi, c'était la représentation incarnée de cet hôtel en ruine. Et en voulant le retaper, cet hôtel, bah c'est elle qu'elle essaye de retaper.
Et quand vous dites que c'est une femme que vous avez connue ?
Évidemment, avec toutes les adaptations, les précautions nécessaires, parce que c'est un personnage extrêmement tourmenté, au bord de la folie. Ce que n'est pas du tout la personne que j'ai connue. Mais en revanche, il y avait des prémices, des contours, des décors. C'est un peu comme en musique, il y avait des couleurs autour de cette femme qui m'ont donné envie d'écrire sur elle.
Extrait du roman « Sœur de sable » de Stéphane Ehom. Rose Saint-Just, Port-Fou, 1958. La mer, écrasée de soleil, lui brûlait les yeux. Il était tôt, pourtant à peine 6 heures, car Rose voulait jouir des dernières fraîcheurs de l'aube, avant le retour de la canicule. Elle éteignit sa cigarette sur la dalle de ciment du balcon, quitta le fauteuil et s'approcha mollement de la balustrade à laquelle elle s'accouda. Nouveau vertige. Elle porta la main à ses lunettes noires et se stabilisa dans l'ombre de la terrasse supérieure, ce dernier étage qu'il faudrait bien un jour débarrasser. Elle hésitait à descendre dans la cuisine, boire un verre de vin, juste un, le premier de ce jour nouveau, le premier du matin. Mais elle résista et se mit à scruter l'anse de la station contrebas. La plage était encore déserte. Au port, pris dans la lame luisante de l'eau déjà tiède, les voiliers amarrés ne tanguaient pas. Et cela avait quelque chose d'inquiétant, car à cette heure se levait toujours une brise qui s'enroulait dans les haubans, faisait claquer les drisses. Martèlement obsessionnel dans le cri des martinets nichés au creux de la charpente. Ce cri strident qui piquait ses nuits, ses cauchemars, la moiteur de ses insomnies à répétition. Ce matin, Tout semblait immobile. Ce n'était pas normal. Il y avait bien, à demi dissimulé sous les tamaris et les cyprès de la promenade des Italiens, assis sur des bancs, deux ou trois silhouettes avec leurs chiens. Mais Rose ne les reconnut pas. C'était trop éloigné, trop flou. Elle voyait mieux le croissant blond de la plage nichée au pied du quai principal, où s'alignaient les boutiques encore fermées et les restaurants. Bientôt, d'autres silhouettes y viendraient pour se dévêtir, s'enduire de crème, s'allonger, se baigner. Rituel avide en cette fin d'été. Une goutte ruissela sur la nuque de Rose, glissa le long de son cou, descendit au creux de ses seins, sous la chemise de nuit. Elle ne l'essuya pas. Elle serra ses cuisses. L'humidité et la chaleur revenaient. Il fallait sans tarder fermer les persiennes de l'hôtel. Son rituel à elle, elle s'enfermait quand d'autres se déshabillaient. Cela lui prendrait une bonne heure. 27 chambres, 162 personnes, ce n'était pas une vie, matin et soir, pour maintenir une fraîcheur intermittente. Elle ouvrait et refermait les pétales de son malheur, et chaque soir, exténuée, elle se maudissait d'avoir accepté l'héritage empoisonné. Ces nuits solitaires revisitaient le bureau du notaire à New York cet hiver-là, son sourire affable sous les moulures du plafond, ses petits doigts nerveux qui couraient sur des piles de dossiers. Pourquoi avait-elle accepté? Pour se hisser au même rang que Lise, à 39 ans, la peur de paraître lâche? Lise, assise bien droite dans son petit tailleur Dior, elle en était si fière. Certains journaux de mode parlaient encore de la mort récente du couturier. Oui, Lise avait dit oui, tout de suite, sans réfléchir. Mais à vrai dire, elle réfléchissait si peu, tout lui était égal, la vie lui souriait, elle était venue chercher sa villa, comme on récupère une robe chez le teinturier. Alors Rose avait dit oui, elle aussi, non par mimétisme, mais par esprit de compétition, sans doute, compétition de toujours, qui avait fait d'elle deux étrangères, deux rivales de cinéma.
Et donc à 60 ans d'écart, Amelia Lambertini, qui elle est journaliste, elle sort d'une rupture amoureuse douloureuse et un jour elle vient en aide à un vieux monsieur, c'est son voisin, nous en reparlerons. Et qui est Amelia pour vous?
Amelia, c'est la figure inversée de Rose. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de faire évidemment deux miroirs, avec des âmes en miroir et des situations en miroir qui se répondent à 60 ans de distance. Et donc Amelia répond à Rose, comme beaucoup d'autres personnages se répondent d'une époque à l'autre, comme le ballon dirigeable de l'époque actuelle répond au paquebot, ce sont finalement tous les deux des paquebots, un paquebot des airs, un paquebot des terres, de la terre, puisque c'est ce vieil hôtel. Et donc ce personnage d'Amelia, c'est le miroir inversé de Rose. Et donc les vraies sœurs de sable, ce sont elles, plus que les vraies sœurs des années 50, qui sont en pleine rivalité autour d'un personnage assez mystérieux. Et donc ce personnage d'Amelia, eh bien, c'est presque la petite sœur que Rose aurait aimé avoir, ou peut-être la sœur qu'elle aurait aimé être, tout simplement.
Effectivement, c'est ce qu'on ressent, nous, à la lecture de votre roman, que ce sont elles, les deux vraies sœurs, et qu'elles sont peut-être les deux côtés d'une même pièce.
C'est Janus en version
le féminine. Côté face, le côté pile, c'est le ça. Côté années 60 et le côté aujourd'hui, avec deux femmes qui essayent de reprendre leur vie en main.
Ce qui m'intéresse, c'est le thème du rétablissement. C'est pas pour rien qu'on a un cirque aussi dans cette histoire et qu'on a un trapéziste. C'est que tout est histoire de rétablissement quand ça ne va pas bien. On pense à Scott Fitzgerald et la fêlure. Il faut qu'il se rétablisse. On pense à Styron et les ténèbres. Il a fallu qu'il se rétablisse grâce à la musique. Tiens, là encore. Tout est affaire de rétablissement. Et donc, ces deux femmes, elles vont essayer de se rétablir pour des raisons différentes dans un univers qui va les rapprocher, puisque, eh bien, malgré ces 60 années qui les séparent, il va falloir que, et c'était toute la difficulté de l'écriture du livre, les deux histoires atterrissent à un moment donné et qu'elles puissent se retrouver.
Alors parlons de musique en effet, puisque pendant que Rose se bat contre les problèmes d'argent, la crainte de ne pas pouvoir réaliser ses projets, tout cela noyé dans un peu beaucoup de vin blanc, avant de rencontrer un bel homme d'ailleurs, mais on verra ça plus tard, Amelia elle donc fait plus ample connaissance avec son voisin, cet homme très âgé, dont elle découvre qu'il a été musicien. Alors, dans votre roman, Stéphane Ehom, il s'appelle Alan Green. Il est imaginaire, j'ai vérifié, il n'existe pas. Mais est-ce que néanmoins, il ne vous aurait pas été inspiré par un vrai musicien? Et par exemple, Franz Schrecker, qui est en prologue de votre roman?
Mais vous avez vu juste, Franz Schrecker fait partie des compositeurs post-romantiques qui me fascinent, au même titre que Franz Schmidt, que Korngold, que Zemlinsky. C'est toute une fratrie de compositeurs qui, parce qu'ils étaient juifs, ont dû fuir l'Allemagne ou l'Autriche et se réfugier aux États-Unis, certains d'ailleurs étrangement au Japon. Je pense à Manfred Gurlitt. Et Franz Schrecker, effectivement, est un pivot. C'est la raison pour laquelle, en effet, en exergue du livre, il y a cette citation musicale de la symphonie de chambre, qui est une œuvre superbe, chatoyante, un peu à l'image de laquelle j'essaie de construire le roman. Et donc, ce sont des personnages qui me fascinent parce que ce sont des gens qu'on a complètement oubliés aujourd'hui. Alors, complètement oubliés, c'est faux parce que depuis la fin des années 90, on a beaucoup fait pour les réhabiliter, mais enfin, on interroge les uns et les autres dans la rue. Personne ne les connaît. Et hélas, nos théâtres lyriques qui ont bien du mal, en ce moment, on avait déjà bien du mal avant cette crise, à programmer autre chose que des Traviata et des Rigoletto dont on nous rebat les oreilles depuis des années, alors qu'il y a des trésors musicaux qui dorment dans les tiroirs soit des éditeurs, soit des maisons d'édition discographiques. Et Franz Schrecker fait partie de cette figure majeure d'une découverte absolue qui m'a donné envie de construire le personnage d'Alan Green autour.
Et donc, c'est là où on découvre, Stéphane Ehom, que non seulement vous êtes écrivain, mais vous êtes mélomane. C'est une partie importante, ça aussi, de votre vie et de votre création artistique.
Mais très paradoxalement, je pense que c'est plus important que la création artistique. C'est-à-dire que ma vie est entièrement prise dans la musique. Et l'écriture, finalement, c'est une sorte de dommage ponctuel, puisque je n'écris pas tous les ans, c'est de temps en temps, puis c'est long, je suis assez lent. Et c'est la musique qui fait qu'un livre existe. Et c'est pour ça qu'au début de chacun de mes livres, il y a toujours une exergue musicale, parce que c'est une musique qui me donne envie d'écrire ce livre. Alors en même temps, je vous raconte un peu des choses qui ne sont pas tout à fait vraies pour ce livre, puisqu'il y a eu la symphonie de Franz Schrecker, mais il y a eu également la découverte de ce vieux paquebot, de ce vieil hôtel.
Qui existe vraiment?
Qui existe vraiment.
Vous êtes en train de nous dire que cet endroit assez magique et majestueux, on a très envie d'aller. Et quelque part sur une carte.
Il est sur une carte. Alors après, j'ai un peu réaménagé évidemment l'hôtel, les criques, etc. Mais tout le décor, tel qu'il est décrit, c'est celui de cet hôtel.
Donc c'est comme ça que vous composez ce roman, Stéphane Ehom, une écrivaine que vous avez croisée, un hôtel qui existe réellement, perché en haut d'une montagne face à une crique, et un compositeur allemand oublié.
Une musique, des sensations, des parfums. Les parfums sont très importants dans...
De laurier rose.
Voilà, donc c'est vraiment, on essaye de donner une structure complète, peut-être presque comme du pointillisme, à un livre. Il y a quelque chose qui est très important dans un livre, pour moi, c'est un peu comme dans la musique tonale, c'est le rythme, l'harmonie et la mélodie. Donc le rythme, évidemment, c'est la façon dont on écrit. L'harmonie, c'est votre histoire. Et puis, rythme, harmonie et mélodie, c'est la façon dont vous enveloppez tous ces éléments de son, de parfum, de description et puis d'élan d'âme.
Donc on écrit comme on peut composer une partition. Vous composez vous-même?
Ça, je ne saurais pas le dire parce que je ne compose pas. Et je suis d'ailleurs bien admiratif de certains de mes camarades qui, eux, sont de très bons compositeurs. Je pense à Richard Dubugnon ou à Thierry Esquèche, notamment, à Carole Beffa, ils sont très nombreux. Mais je serais bien incapable de dire qu'on compose de la même façon. Ce qui est intéressant, en revanche, je pense, c'est le travail par strates. C'est-à-dire que c'est comme si on avait des pupitres. Et quand j'ai le pupitre de l'odeur, j'ai le pupitre donc des parfums, j'ai le pupitre de la couleur, du noir et blanc. Le cinéma aussi m'inspire beaucoup parce que ce qui m'intéresse sont les contrastes et davantage les contrastes. Alors pas vraiment dans le cinéma contemporain qui est moins intéressant sur ce sujet-là, mais les contrastes des films de Fritz Lang ou des films de la période anglaise ou muette d'Alfred Hitchcock. Alors ça. C'est très intéressant parce que on est dans les contrastes, il faut forcer le trait sur les nuances.
Une autre référence que j'ai cru voir, c'est que ici, votre Alan Green a composé donc un concerto pour Apollon. Je me disais que c'était un peu la sonate de Vinteuil de Proust, qui lui aussi a imaginé un musicien et un morceau qui n'ont jamais existé, puisque c'était l'amalgame de tous ceux qu'il avait croisés. C'est un peu votre côté à la recherche du temps perdu?
Bah écoutez, c'est très très extrêmement, je suis extrêmement flatté. Ce que je peux dire, c'est que cette symphonie est très très romantique et il m'est arrivé quelque chose d'assez étonnant. Il y a une thématique qui est la thématique qui est en exergue dans le livre, de cette symphonie de chambre. Et avant de mettre cette exergue dans le livre, j'ai écouté, très peu de temps avant, j'ai écouté un concerto, enfin un hymne à Apollon de Sir Arthur Bliss, qu'on a là aussi complètement oublié. Alors lui, bien après, c'est pas du tout la période post-romantique, c'est un compositeur britannique formidable et puis chef d'orchestre, qui a écrit un hymne à Apollon, d'où le titre de Concerto pour Apollon, qui a exactement la même modulation harmonique que l'œuvre de Schreker. Une œuvre en miroir, voilà.
Puisqu'on en parle beaucoup, moi je vous propose peut-être qu'on l'écoute, cette symphonie de chambre, à moins que vous ne préfériez peut-être aussi la bande originale du film Vertigo, Sueur froide, que vous citez ici, un film d'Hitchcock, bien évidemment, évoqué il y a quelques instants, Stéphane Home.
Mais c'est formidable, parce qu'effectivement, Vertigo, c'est la raison pour laquelle j'ai placé évidemment l'énigme, enfin l'énigme, l'histoire en 58, mais je pense que pour nos auditeurs, écouter Franz Schreker, ce serait merveilleux.
C'est ce que nous allons faire tout de suite. Et sur la musique de Franz Schreker et cette symphonie de chambre, nous reprenons notre conversation avec Stéphane Ehome, auteur du roman intitulé « Sœur de sable » aux éditions Rivage, avec cette magnifique couverture, une illustration de Fred Van Dellen, qui sur un fond bleu dessine la silhouette d'une femme en tenue d'été, courte et sexy, mais élégante aussi, avec son chapeau dans un décor où l'on voit la mer, un voilier, un fronton. Bref, une image paradisiaque. Carte postale des années 60. On n'est pas très loin non plus du film Plein Soleil, adapté d'un roman de Patricia Highsmith, que vous citez d'ailleurs, ainsi que Carson McCullers, James Baldwin et Truman Capote. Ce sont des écrivains qui vous inspirent, Stéphane Ehome ?
Beaucoup. Beaucoup, je les lis régulièrement et puis je lis aussi beaucoup, alors évidemment leur vie, je la relis, je lis leurs nouvelles et puis j'aime bien lire leurs correspondances. On apprend beaucoup de choses. James Baldwin pour moi est un homme extraordinaire sur tous les plans, on en parle beaucoup en ces temps derniers, mais j'ai une grande fascination pour un livre qui s'appelle Giovanni's Room, qui m'a donné l'envie d'écrire un livre qui s'appelle Sheridan Square aux éditions du Seuil il y a plusieurs années. Voilà, et puis bon, Patricia Highsmith, évidemment, je pourrais en parler des heures. Le Talented Mr. Ripley est absolument formidable. Il y a eu une très très belle adaptation cinématographique d'Anthony Minghella avec Jude Law, avec Cate Blanchett, avec Matt Damon.
Que vous préférez à celle de René Clément avec Alain Delon et Maurice René, qui sont quand même et j'oublie l'actrice Marie Laforêt.
Marie Laforêt, très paradoxalement, oui. Pour deux raisons. La première, je trouve que l'intrigue de... Enfin, pas l'intrigue, mais l'adaptation de Minghella est beaucoup plus proche de l'intrigue initiale de Patricia Highsmith. Et qu'il y a une vérité dans le jeu qui est beaucoup plus sincère et... Évidemment, alors ça, on peut pas le reprocher, mais moins daté que celle d'Alain Delon et Maurice René et Marie Laforêt, qui est daté. Et puis, c'est un film qui les éclaire. C'est drôle d'ailleurs comme titre Plein Soleil, parce que c'est un film qui les éclaire, eux, les acteurs. Ils sont merveilleusement filmés. Le film, esthétiquement, est remarquable. Mais par rapport au livre initial d'Highsmith, je préfère, mais c'est, ça ne m'engage que moi, la version d'Anthony Minghella.
En tout cas, on retrouve dans votre roman aussi cette ambiguïté du trio amoureux. Oui. À l'inverse, là, ce sont plutôt deux femmes et un homme, mais je n'en dirai pas plus. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup dans votre roman, Stéphane Holmes, c'est que dans cette plongée dans les années 60, cette espèce de Dolce Vita aussi mythique, vous réussissez aussi incroyablement à infuser le même esprit, la même atmosphère, un peu suspendue d'ailleurs, c'est le cas de le dire, dans la période contemporaine, en imaginant le retour du dirigeable, ce ballon gonflable, volumineux, qui pourrait, ici l'espère l'un de vos personnages, remplacer l'avion. Et ainsi, vos personnages d'aujourd'hui s'embarquent pour une croisière de 15 jours, puisque le bâtiment flottant fait du 165 km à l'heure, c'est dire qu'il faut prendre son temps, il faut avoir du temps. Et tout cela dans une ambiance d'Orient Express, dans les airs. C'est un de vos rêves de faire revivre ce mode de locomotion aujourd'hui disparu ?
Bon, ce serait formidable. Alors, pas forcément le dirigeable, mais vivre dans ces conditions-là. Bon, l'Orient Express existe encore, mais dans des proportions bien moins importantes et sont bien moins utilisées qu'à l'époque. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et ce qui me passionnait, c'était d'opérer le glissement entre une époque contemporaine, entre guillemets, un peu sèche, un peu abrupte, et d'opérer le glissement vers le merveilleux et vers ce dirigeable. Alors, évidemment, revenir à ce type de moyens de locomotion, c'est un peu étrange, mais quand on étudie bien, parce que je me suis quand même documenté, il fallait que les choses soient tout de même plausibles, je crois qu'il y a malgré tout des études, des projets, alors je ne sais pas où ça en est, d'utiliser, pas dans les quantités que je raconte, beaucoup moins important, moins de monde, moins de personnel, mais il y a quand même des projets de revenir parfois sur certaines courtes distances à ce type de ce moyen de locomotion.
Bien entendu, parce que c'est très écologique, voilà. Ça ne consomme aucun carburant toxique, et dans l'état d'esprit qu'est notre planète aujourd'hui, sur la durabilité, ça s'inscrit parfaitement dans des projets.
Et c'est ce à quoi j'ai pensé, je me suis dit que c'était tout à fait plausible.
Si ça existait, vous monteriez dedans ?
J'ai très peur des avions. je monterais dedans avant le décollage, pour vérifier que la décoration soit comme il faut.
Mais vous ne feriez pas l'expérience du voyage ?
Je ne sais pas.
En tout cas, c'est l'éloge de la lenteur. Dans ce monde, justement, on va trop vite, enfin un petit peu moins depuis que cette année blanche de la pandémie nous a obligés à nous arrêter et à nous confiner. Ça vous manque, la lenteur, dans nos années 2020-2021 ?
Alors, ça ne me manque pas parce que je fais tout pour être lent. Donc, plutôt que d'aller d'un
point...
Vous avez
fait le choix de la lenteur.
Ben oui. Donc, les uns et les autres veulent prendre des avions. Non, moi, je préfère prendre le train. Voilà, ils veulent tous aller très vite. Plus on parle vite, plus on a l'air intelligent. Non, il faut prendre le temps d'aller au fond des choses, d'avoir le charme du voyage, d'opérer le charme de la transition.
Mais est-ce que c'est ce que vous procure, justement, le plaisir d'écrire et le plaisir de lire ?
Ah oui. Et la musique.
Et la musique.
Qui abolit tout.
Donc, cette lenteur, ce temps suspendu.
Oui.
Amalia dit qu'elle a besoin de tout noter. Et vous, Stéphane Holmes, sachant d'ailleurs aussi qu'à la fin du roman, dans l'épilogue, vous nous racontez, là c'est vous qui prenez vraiment la plume, comment dans un restaurant où vous vous rendez souvent sur la côte normande, un vieux monsieur, client régulier de l'établissement, vous a inspiré l'un de vos personnages secondaires. C'est donc aussi de l'observation que naît votre écriture.
Alors, je crois que c'est le cas pour beaucoup d'auteurs. J'observe énormément parce que on peut pas tout inventer ex nihilo, et il y a certains personnages qui sont tellement fascinants que vous ne pouvez pas les mettre de côté, et c'était le cas de ce monsieur.
Qui est pourtant pas au centre de votre roman.
Non, c'est un personnage secondaire, mais c'est un personnage qui a un charme, je pense, très important et qui a une force, une puissance de rétablissement justement pour aider Rose à remonter. Et donc quand j'ai rencontré quand j'ai vu et observé ce monsieur dans cette brasserie à Trouville-sur-Mer très précisément, et qu'il était un habitué, il y venait régulièrement, je me suis dit tiens, là il y a quelque chose à saisir.
Et donc vous aussi vous notez tout?
J'ai tout noté sur le revers de la nappe en papier de la table à laquelle je venais de temps en temps. Il était toujours là et on s'est jamais parlé, on s'est jamais rencontré. Nos regards se sont croisés juste avant qu'ils ne disparaissent à tous les sens du terme d'ailleurs. Et voilà, c'est très émouvant. Je trouve qu'il y a des choses, il y a des grâces comme ça d'écriture. C'est pas prévu et vous rencontrez des gens qui vont venir nourrir le livre. Et ça, c'est merveilleux dans un roman. D'avoir toute son architecture, d'avoir tous les personnages, et puis au bout d'un chapitre ou deux chapitres, trois chapitres, il y a un personnage qui était juste une silhouette pour faire l'orchestration, qui arrive et qui en fait commence à prendre une place considérable dans le roman, et puis vous apercevez que il a une place, un rôle prépondérant. Et ça, c'est merveilleux dans l'écriture. Alors ça ne veut pas dire que ça chamboule toute l'architecture, surtout pas, mais on fait un peu des slaloms pour arriver, ces thèmes et variations, on arrive au bout de son histoire... En allant d'un point à un autre. Et il faut surtout pas, je pense, écrire son plan bêtement, parce que ce serait très ennuyeux. C'est ce que m'avait dit Thomas Narcejac, du tandem Boileau-Narcejac.
Vous l'avez rencontré?
Parce que je n'ai jamais rencontré. Mais quand j'avais 15-16 ans, j'étais passionné de leur œuvre, de tout ce qu'ils ont écrit, 40 ans de travail ensemble, et de façon un peu légère, je lui ai écrit. Et je lui ai envoyé le manuscrit de mon premier roman. Et à partir de là, on a commencé à échanger, à correspondre. Il habitait Nice, il habitait rue Giglia, à Nice. Et donc pendant des années, pendant 10 ans, on a correspondu. Et j'envoyais mes lettres au 27 rue Giglia, et puis il me répondait à Paris. Et puis après, je suis parti vivre à New York, il me répondait à New York. Et c'était merveilleux parce que je ne l' ai jamais rencontré, mais il m'a appris, je ne vais pas dire à écrire, mais à pas aller dans le mauvais sens de l'écriture. Et c'est lui qui me disait, il ne faut pas trop construire un livre, parce qu'après, on tombe dans la rédaction ennuyeuse d'une bonne idée. Il m'a guidé, il m'a aidé.
Quelle belle histoire.
Et en plus, c'est Sœur Froide.
Exactement.
Voilà, donc ça, c'est merveilleux.
Sœur Froide, qui est le texte original français de Boileau-Narcejac, qui ensuite a été adapté par le scénariste Hitchcock, qui en a fait Vertigo. Et voilà comment la boucle est bouclée.
Voilà.
Avec quelques fantômes que nous saluons au passage. Merci beaucoup de cette belle histoire. Est-ce que ce livre, dont on n'a pas tout dit d'ailleurs, on n'a pas parlé du crime, voire des crimes, on n'a pas parlé du cynique promoteur immobilier, on n'a pas parlé du cirque, qui a pourtant sa place, on n'a pas parlé de l'amant bien décevant, mais c'est justement pour allécher un peu plus nos auditrices et nos auditeurs pour lire Sœur de Sable, il faut garder la part de mystère. Si ça devenait le livre de l'été, celui qu'on dévore sur la plage, ça vous ferait plaisir ?
Naturellement.
Merci encore.
Merci.
Je rappelle
beaucoup
le titre de ce roman, Sœur de Sable, de Stéphane Ehome, qui a paru aux éditions Rivage. Et merci à Laurie Plisson, qui aujourd'hui a enregistré l'émission.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.